Je vous appelle et je voudrais laisser un message pour les auditeurs. En fait, depuis votre passage à Mayotte et vos excellents reportages, bon, la pression sur les immigrés et sur les clandestins a redoublé pour le chiffre. Et devant des situations absolument intolérables et des atteintes aux droits de l'homme, notamment des reconduites à la frontière de mineurs et puis de jeunes scolarisés dans des conditions vraiment scandaleuses, nous avons décidé de créer un collectif. Alors un collectif qui regroupe le Rassemblement de citoyens, la Ligue des droits de l'homme section Mayotte, la Coordination pour la Concorde, la Convivialité et la Paix, Secours catholique, Sud Éducation Mayotte, GANES, CFDT, Mayotte, Solidarité Mayotte. Nous faisons un rassemblement le jeudi 23 février 2006 à 15h, rassemblement pacifique, devant la préfecture de Mamoudzou, avec comme thème et comme appel pour le respect des droits de l'homme et des droits de l'enfant sur l'île de Mayotte, pour que la santé et la scolarité soient accessibles à tous, pour un assouplissement de la politique des visas, facilitant la circulation des personnes entre les îles, contre un parcours administratif qui rend les légalisations quasi impossibles, contre les reconduites à la frontière abusives et les situations de détresse qui en résultent, contre une politique du chiffre surtout et pour une politique de l'humain. Donc on demande si tous les habitants de Mayotte sont intéressés, quelle que soit leur nationalité, Mzungu, c'est-à-dire métropolitain, mais aussi comorien, maorais, tous ceux qui souhaitent se rassembler pour dénoncer cet état de fait, vous êtes conviés le jeudi 23 février à 15h. J'en profite pour dire bonjour à la métropole, ici on a très chaud. Et voilà, je vous embrasse, à bientôt, au revoir.
Bonjour Patrice des Pyrénées-Audoises. Je suis en direct du Pertus où nous sommes 3000 manifestants à l'appel de tous les syndicats régionaux. Mais bon, une grosse main de majorité de la manif, c'est plutôt la CGT. C'est donc contre la directive Bolkestein et contre ce putain de libéralisme. Allez, ciao, à bientôt.
Moi j'aime bien les bateaux, alors je suis avec intérêt la saga, les péripéties de notre cher ancien fleuron de la marine française, le Clémenceau, dont personne ne sait visiblement à l'heure qu'il est combien d'amiante il y a à bord, alors qu'il a bien fallu l'acheter et la faire rentrer. Et je ne pense pas que le ministère de la Défense ait jeté toutes ses anciennes factures. Ce beau bateau qu'on veut aller faire s'échouer dans une grande baie en Inde pour qu'il soit démantelé à ciel ouvert par des centaines d'ouvriers. Et justement... Je vois Madame Michèle Alliot-Marie, invitée au journal de France 2 de 13h de ce midi, qui nous dit que cet énorme vaisseau ne sera démantelé que par une soixantaine d'ouvriers qui auront reçu bien évidemment une formation, qui auront un superbe suivi médical avant, pendant et après, et que donc bien évidemment la France a pris toutes les précautions. Ben, moi, en réponse à cela, je vous invite simplement à essayer de retrouver un reportage fait par Thalassa sur ce même chantier, l'an dernier, je n'ai plus la date exacte, hélas. Et vous verrez, c'est édifiant. Les conditions de travail, les conditions de vie, les salaires, c'est vraiment formidable. Les pays civilisés qui envoient, enfin, civilisés. Allez, ciao.
Chapeau, Madame Alliot-Marie. Hein. Vraiment, chapeau. Voilà des gens courageux, héroïques. Quel panache d'être ainsi minoritaire, seul contre tous. Ça, c'est formidable. Formidable, bravo. Seul contre tous, enfin, contre 88% des Indiens. 88% des Indiens estiment, selon un sondage, que le Clémenceau aurait dû être désamianté avant. Et 70% d'Indiens estiment qu'il doit retourner en France. Clémenceau, go home. 70%. Vous savez ce que ça fait, 70% d'Indiens sur 1 milliard et 100 millions d'habitants? Ça fait quoi, 750 millions. Pas mal quand même. Une femme seule contre 750 millions d'Indiens. Voilà la fierté du marginal. Voilà quelqu'un qui a le sens de l'alternative, parce que elle a aussi contre elle, Madame Alliot-Marie, l'opinion française. 68% des Français souhaitent le retour du Clémenceau. 68% des Français. C'est quand même pas mal, selon un sondage du 1er février. Du 1er février de cette année, un sondage, c'est ça. Ce n'est qu'un sondage. Et 54% de Français, selon toujours ce sondage, se sont déclarés choqué que le Clemenceau aille en Inde se faire désamianter. Bravo les marginaux, bravo les alternatifs. C'est comme pour les OGM, les Français n'en veulent pas, ils le disent et le redisent par tous les moyens, et ben, les alternatifs s'entêtent. C'est comme pour le traité de constitution européenne, les Français n'en veulent pas, on nous le resservira autrement, comme pour la directive Bolkestein, les Français n'en veulent pas, on nous la présente autrement. Et c'est pour toutes ces raisons que, un, nous sommes ici en Inde, je suis à Delhi, je vous appelle depuis Delhi, où on découvre des tas de choses passionnantes, et on va s'intéresser, vous vous en doutez, de très très près à ce Clemenceau et au chantier sur lequel il doit être démantelé, démantibulé. Il y a d'autres chantiers dans le coin, on va aller faire une petite visite, et on trouvera aussi d'autres de nos ordures qui sont recyclées ici. Les e-West, par exemple, je vous en ai parlé hier, les déchets informatifs, tous les déchets électroniques, qu'est-ce qu'on en sait, qu'est-ce que ça devient, etc., etc. Et puis, directive Bolkestein, comment ce genre de choses est décidé, comment on nous le présente, comment c'est approuvé ou non, et par qui, et ceux qui décident, où trouvent-ils leurs conseils et comment fondent-ils leurs opinions, eh bien, c'est le deuxième volet aujourd'hui, des lobbies, il y a beaucoup de lobbies à Bruxelles, on va en découvrir certains, plus spécialement, de plus près, aujourd'hui, dans la base. J'y suis après les messages que voici, que j'ai écoutés d'ici, de Delhi, au 01 56 40 37 37.
Bonjour à tous. Hier, jeudi 9 février, le couperet est tombé sur le lycée rural de Clamecy, dans la Nièvre. Le recteur de l'académie de Dijon a annoncé la fermeture de deux BEP, d'une section en terminale STG et du BTS PME-PMI. À travers la France, de nombreux lycées ruraux sont touchés par cette mesure qui vise à réduire l'offre en sections techniques et technologiques et à rayer de la carte les lycées ruraux soi-disant trop coûteux. Nous avons manifesté notre mécontentement à plusieurs reprises et édité des pétitions. Plus de 2500 signatures à ce jour. Un collectif des lycées ruraux et un blog ont été créés. Tapez en un seul mot SOS lycées ruraux sur votre moteur de recherche et vous nous trouverez. Nous attendons vos témoignages et votre soutien. À la rentrée, d'autres actions seront menées avec les parents d'élèves. Nous prévoyons la réunion d'assises nationales des lycées ruraux le 8 avril à Clamecy, donc dans la Nièvre, afin, entre autres, d'établir une charte du lycée rural. À bientôt, Marie-Pierre.
Salut Daniel, salut à toute l'équipe. Alors, une info citoyenne, tous à vos calepins. Grande manifestation le samedi 18 février à Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor, contre les OGM. Mobilisons-nous et soyons nombreux. Merci encore Daniel, et continuez à nous donner envie d'écouter la radio. Salut Gérard, dans le 22, à Ludéac.
Bon, rassurez-vous, pour ceux qui n'ont pas pu voir l'émission, sûrement que l'audition du juge Burgo se trouvera en DVD à la FNAC. Voilà, vous inquiétez pas, vous ne raterez pas ça. Allez, à bientôt.
Le vendredi 10, j'étais dans les embouteillages grenoblois et j'ai entendu la chanson sur le métro Charonne. Et je me suis souvenu, comme chaque année, de ce 8 février 1962, qu'un jeune garçon de mon âge perdait la vie en luttant contre la guerre d'Algérie. J'ai eu plus de chance que lui car je n'étais qu'interpellé par la police grenobloise alors que je participais à un collège d'affiches. Et si je me souviens tant de cette date, c'est aussi que comme lui, je venais d'avoir 16 ans ce jour-là. Alors ce mercredi 8 février 2006, j'ai fêté mes 60 ans et je salue la mémoire de Daniel Ferry.
Bonjour, c'est Béné, Lucie et Sam de Rennes. Donc on sort de l'AG des étudiants de Rennes 2 et nous avons le plaisir de vous apprendre que la grève a été massivement reconduite avec plus de 30 000 personnes en AG.
Ouais.
Les CHU et CHR donc de Rennes nous soutiennent et ont déposé eux aussi un préavis de grève pour jeudi.
Ouais.
D'autre part, on avait réfléchi sur une occupation plus choc donc en commission action et l'AG a voté pour l'occupation de la gare après la manif. Il y a aussi une coordination avec les autres universités de France en grève qui va avoir lieu ce week-end, donc ça c'est assez énorme. Et on appelle à la grève dans toutes les autres structures publiques et privées, enseignement et autres. Donc là, à l'instant, l'AG vient de se finir, donc on va aller faire un barrage filtrant avec diffusion de tracts en centre-ville pour essayer de mobiliser un petit peu les gens. et leur faire comprendre nos revendications, à savoir le retrait du CPE et la réembauche massive dans la fonction publique, le retrait du CNE, le retrait de la loi pour l'égalité des chances, on n'y croit pas trop. Une chose rigolote, ah oui, il y avait plein de caméras présentes, il y avait plein de journaleux, des micros et tout. Et donc, ces médias nationaux, pour la plupart, ont surtout filmé les intervenants altergrévistes qui se sont plaints de notre blocage et qui pignaient. Donc, faut pas croire ce que racontent les sbires du gouvernement médiatique, parce que ça montre bien tout ça, que la mobilisation s'organise et tient bon. Voilà, l'information est triée, mais merci Mermet pour ton émission, ça permet de faire passer les vraies infos. Voilà, au revoir.
Suite au forum social de Bamako, la lutte continue. 9 mineurs de la mine d'or de Morila sont toujours emprisonnés à la maison d'arrêt de Bougouni au Mali pour fait de grève en vue d'obtenir des améliorations de conditions de travail suite à des problèmes de santé suite au mercure utilisé. Sur 635 salariés, 530 se sont fait licencier sans aucune indemnité et ont subi et subissent encore des répressions. Obligés pour certains de se cacher, ils ont vu leurs biens confisqués et leurs maisons mises à sac. 9 personnes sont encore à l'heure actuelle en prison sur les 32 qui ont été incarcérées. La société qui exploite la mine est contrôlée par l'État malien, mais est constituée de capitaux étrangers, dont Bouygues pour la France. Mercredi 15 février à Nice, à partir de 19h au Bougalou Bar, 17 rue Penchenati, se tiendra la seconde réunion rencontre du repère niçois là-bas si j'y suis. La première a regroupé plus d'une dizaine de personnes et a été riche d'idées. Donc demain, à partir de 19h, au Bougalou à Nice. Venez nombreux. Ciao, Daniel.
C'est un message pour les auditeurs de la région marseillaise, aixoise, ciotadenne ou bagnaise, car ce soir, c'est le repère de la Basse si j'y suis, au bar de la pipe. C'est pour ce mardi, 14 février à 19h. Bien sûr, on se fout de la fête des amoureux, ou alors les amoureux de la dissidence et de la résistance. Voilà, et si bientôt on va jouer à la pétanque sur la cour du bar de la pipe. De toute façon, on restera pas les pieds tanqués, parce qu'avec tout ce qu'on voit et tout ce qu'on entend, c'est normal qu'on se bouge. Alors voilà, ce soir, 19h au bar de la pipe à Gemnos, à 5 km d'Aubagne. Allez, au revoir.
Docteur Balkenstein. Docteur Balkenstein.
Igor.
Je vous apporte le cerveau de Robert Schumann, maître.
Je pense que le travail des lobbies, c'est un travail peut-être plus d'influence sur ceux qui sont chargés du monopole de la parole légitime dans l'espace public. Je vais m'expliquer autrement, je vais dire par là qu'à mon avis, le rôle des lobbies, c'est peut-être plus de faire passer un discours dans les médias et de convaincre l'opinion publique que oui, il est nécessaire de mener telle ou telle réforme.
Toujours être là où il faut. Avoir à sa portée les dernières nouvelles des marchés du monde entier.
C'est-à-dire que les lobbies, les industriels se sont dit, plutôt que d'informer le Congrès, on va faire les lois nous-mêmes et les proposer aux congressistes, qui vont les voter sans problème, comprennent rien aux lois techniques, donc on va s'occuper de ça.
Je crois que le lobbying, c'est un élément qui vient peut-être renforcer des mécanismes, mais que globalement, le monde politique est disposé à être sur la même longueur d'onde que le monde des affaires.
Notre thèse, celle qu'on défend, et celle qu'en fait la théorie économique nous enseigne, c'est que le libre-échange est favorable pour tous les individus.
Alors, en matière de droits sociaux, est-ce que vous avez eu l'occasion de travailler là-dessus?
Qu'est-ce que vous entendez par droits sociaux?
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Guy Vanctil Lobby, Planète.
Flight number 2, arriving from...
Dr. Balkenstein. Dr. Balkenstein.
Oui, Igor.
Je vous apporte le cerveau de Robert Schumann, maître.
Parfait, Igor. Nous allons le mettre dans le crâne d'Emmanuel.
Robert Schumann, 1886-1963.
Very ugly monument.
Un monument très très laid.
There is a statue of his head, a bit...
Un buste de lui un peu plus bas.
I will show you one very ugly.
La plupart des statues censées montrer l'idéal européen sont très laides.
Which is, there's a very ugly one, a statue of celebrating the Euro. It's in front of the European Parliament building.
En face du Parlement européen, il y a une statue pour célébrer l'euro.
It's in the style of Eastern European countries during the communist times.
C'est des sculptures typiquement soviétiques.
Le réalisme socialiste. Yeah.
This is a realism capitalist.
C'est ça, voilà, voilà, tu viens d'inventer le réalisme capitaliste. Le réalisme capitaliste, mais oui, c'est tout à fait ça. Cette statue de Robert Schuman dans ce quartier assez hideux, il faut bien dire, de mais si important pas seulement en ce moment, mais depuis des années et sans doute pour longtemps, puisque c'est dans ce quartier de Bruxelles que se fabrique, s'élabore, pas toujours de la façon la plus transparente et pas toujours de la façon la plus démocratique, eh bien notre vie, nos vies quotidiennes, c'est là que ça se prépare. Alors, certains auditeurs ont dit « Ah oui, mais vous avez laissé entendre qu'il s'agit d'un complot. » Non, 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 on n'a pas du tout la théorie du complot. On ne démasque rien. On ne démasque rien avec les gens de CEO. C'est cette association qui, depuis des années et des années, sont des Hollandais, quatre ou cinq Hollandais, qui observent de très très près ce qui se passe à Bruxelles, et notamment le poids des lobbies, la façon dont les lobbies, les groupes d'influence, les cabinets d'influence travaillent sur sur l'Union européenne, sur la Commission européenne. Il n'y a pas du tout de complot. Tout est transparent et ils en administrent la preuve puisque ils organisent des petites visites qui peuvent être assez longues dans ce quartier de l'Union européenne à Bruxelles. Alors on a commencé avec Eric Vesselius la visite et on va continuer aujourd'hui. Robert Schuman pouvait-il imaginer peut-être après tout, ce que serait le poids de ces lobbies, on l'a indiqué, 15 000, au moins 15 000 personnes à Bruxelles travaillent dans ces groupes, dans ces associations, dans ces bureaux, au profit. Alors, la plupart du temps, des grandes entreprises multinationales, des groupes financiers, enfin du business, et pour une part entre le quart et le tiers pour des associations de droits de l'homme, des ONG diverses et variées, des syndicats ou des représentants ou bien représentent des groupements d'intérêts de biens publics, l'intérêt d'une ville ou d'une région. Mais ça constitue entre le quart et le tiers des lobbies présents à Bruxelles. Je dis ça parce que lorsqu'on parle de lobby, on dit oui, mais attendez, s'il y a un lobby qui travaille dans un sens, il y a immédiatement un lobby qui travaille dans le sens inverse. C'est pas vrai du tout. Voilà, il y a des lobbies de toutes sortes. C'est très très inégal entre ceux qui travaillent pour l'intérêt des multinationales et des groupes financiers, des grandes structures financières mondiales, et ceux qui travaillent pour le social. En fait, c'est en gros, pour simplifier outrageusement, c'est un cheval et une alouette. C'est un cheval de libéral et une alouette de social. C'est en tout cas la balade d'aujourd'hui, Lobby Planète.
L'ADF se fait mieux que prévu au premier trimestre. C'est valable à la distribution de petits gros de maison mère d'Airbus et un pari gagné sur 44%, mais c'est probablement.
What about this announcement from Rodia? Obviously, the fact that Tira Flake cost so much to get rid of, 7.4 million euros as CEO, but also the requirement.
Aventis decided to.
On voit
trois lobbyistes devant la porte de l'UNIC. It's the European Employers Confederation.
Ah oui, c'est le MEDEF. C'est le MEDEF européen.
MEDEF is one of the members of.
Le MEDEF est membre de l'UNIC. Et c'est Ernest-Antoine Seigneur qui a quitté le MEDEF avant la fin de son mandat en laissant les pauvres patrons français pour venir prendre la tête du syndicat des patrons européens.
Well, the nameplate is also interesting. It's very makeshift. It's just a piece of paper with some plastic cover.
Oui, c'est vrai que...
There wasn't even a nameplate there here in this building since 2 years.
Il y a encore 2 ans de ça, il n'y avait même pas de nom sur le bâtiment. Et là, c'est intéressant de voir que c'est un pauvre papier scotché sous du plastique qui a été mis sur la façade, alors qu'avant, c'était une façade complètement anonyme.
Normally, when you would have a corporate office, you would have a nice polished nameplate which proudly announces what's in.
Quand c'est le siège d'une boîte, il y a toujours des grands logos, des grands sigles qui annoncent la couleur.
But for lobbying, it's very important to be effective, but not to be seen. Voilà. So you have to be discreet.
Alors que pour les lobbies, le plus important, c'est d'être efficace, c'est pas d'être vu. Donc c'est pour ça qu'ils sont très discrets. Mm-hmm.
And then there's one organization that I want to mention, which is in the building and which even doesn't have a name sign.
Il y a une organisation dont je voudrais vous parler aussi, qui est dans ce même bâtiment, mais qui prend même pas la peine de l'afficher dans le hall.
It's the European Services Forum.
C'est le forum des services européens.
And it's representing the European services industries.
Qui représente l'industrie des services européens.
And this is a lobby which was created to influence the European Union's position in the WTO negotiations on services, AGCS.
Et qui est un lobby qui a été spécifiquement constitué pour influencer les institutions européennes dans le cadre des négociations à l'OMC. Sur l'AGCS, l'accord général sur le commerce des services.
And what is so typical about this organization is that it was not industry that decided, come, let's lobby the commission and let's influence how they negotiate in the WTO, but it was the predecessor of Pascal Lamy, Liam Britton, who asked one of his friends, a British banker, Andrew Buxton, to create this lobby. So the commission went to industry and asked them, please come and lobby us, because we need direction. We don't know.
Ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est même pas les grands industriels des services qui se sont ligués pour pouvoir faire pression sur la Commission européenne dans leurs intérêts. Non. C'est le prédécesseur de Pascal Lamy, le commissaire Léon Britten, qui avait demandé à un de ses amis banquiers, Andrew Buxton, en lui disant, mais il faut que tu crées un lobby des services, parce qu'on a besoin, nous, les institutions européennes, d'avoir un interlocuteur qui nous dise ce que veulent les industriels des services. Donc c'est la Commission européenne qui a elle-même sollicité la création de ce lobby pour la privatisation des services.
Bon, Eric, donne-nous la solution. Comment s'en sortir? Comment en finir avec tout ça?
Well, it's clear that something needs to be done to get rid of this lobbycracy in Brussels.
Mais c'est qu'en tout cas, c'est clair qu'il y a quelque chose à faire pour se débarrasser de cette lobbycratie ici à Bruxelles.
And I think it will not be possible to do it within 1 or 2 years. It's really a longer term struggle. It took business a long time to get in the position that they're in now. It took them a few decades to really achieve their dominance over the general direction of policy in the European Union.
C'est un travail de longue haleine, ça ne peut pas être réalisé en un an. D'ailleurs, les entreprises et les business qui ont réussi à imposer leur vision des choses aux institutions européennes, eux, ça leur a pris plusieurs décennies.
So a first step will be to convince citizens and people within political parties that this political power of big corporations is really a problem for democracy.
Donc déjà, c'est de convaincre les citoyens, aussi bien que les politiciens, que cette prépondérance des grandes entreprises dans l'appareil politique est quelque chose à remettre en cause.
Of course, they should take account of the opinion of business. But business shouldn't be given the privileged position that it holds right now.
Bien sûr qu'il faut prendre en compte les considérations des entreprises, mais c'est pas celle-ci qui doit entrer en premier lieu. C'est pas la première préoccupation ce que réclament les grandes entreprises.
And more in general, it would mean a re-envisioning of the functioning of the European Union political system at the EU level.
Ça remettre en cause aussi le fonctionnement des institutions européennes et remettre à plat le fonctionnement des institutions au niveau politique.
Alors, retournons-nous à nouveau quand même vers ces bureaux de lobbying. Eh bien, c'est un mot qu'il ne faut pas prononcer si vous allez, si vous voulez rencontrer Patrice Pellegrino de Eurocommerce. Le mot le gêne. Non, il ne veut pas qu'on dise lobbyiste parce que c'est péjoratif, c'est mal compris. C'est, voilà, il y a un problème là, délicat. Il préfère qu'on dise qu'il est, lui, Patrice Pellegrino, donc le patron de Eurocommerce, un conseiller pour les affaires juridiques et consommateurs. Voilà, il se voit comme l'association européenne du commerce et qui représente les fédérations du commerce de 25 pays membres, plus quelques sociétés françaises comme Auchan, Accor, Carrefour, Casino, Pinot, Printemps, Redoute, etc. Alors, Patrice Pellegrino, est-ce qu'il s'agit d'un groupe de pression ou une expertise? Parce que ça, c'est très important de savoir que le lobbying se présente toujours sous le masque de l'expert. We trade the world. Alors, expliquez-nous comment ça fonctionne. Hein, comment vous... Alors, expertise ou pression sur les fonctionnaires et les parlementaires européens. Quand est-ce que vous intervenez? Quand les directives s'élaborent ou bien vous suscitez l'élaboration des directives?
Alors d'abord, je préfère rien dire expertise plutôt que pression, parce que pression, c'est pas, je n'aime pas beaucoup. En plus, parce que moi, je me considère plutôt comme un expert, donc j'apporte une expertise. Au niveau de la façon dont on intervient, c'est plutôt qu'à un moment donné, on leur donne, si vous voulez, l'idée de ce qu'il y a dans un texte qui est en cours d'élaboration.
Comment vous savez que le texte est en cours?
Parce que, vous savez, Bruxelles est un petit village. Hein, tout le monde connaît tout le monde sait ce qu'il y a. Et puis, c'est ce qu'on appelle, c'est typique des capitales administratives. Hein. N'oubliez pas, ça c'est souvent on oublie, qu'une proposition législative, quand elle sort, est souvent précédé, et quand je dis souvent, c'est pour pas dire systématiquement précédé, d'études, de livres blancs, de livres verts. Donc, quand vous aviez, par exemple...
Auxquelles vous participez, ces études?
Bien sûr.
Donc, vous êtes en amont des propositions.
On n'est pas en amont. On est en amont de la fourniture d'expertise. Voilà. Parce que quand un livre vert est publié, il ne vous dit pas, voilà la directive, il dit, on a constaté qu'au niveau européen, il faudrait intervenir dans tel domaine. Voilà les pistes de réflexion.
Vous arrivez.
Contribuer. Eh bien là, on contribue.
Alors, pour voir si on a bien compris, ne dites pas, pour éviter tout ce que ça peut avoir de péjoratif, lobbyiste, dites fournisseur d'arguments.
Là, c'est un peu bien. On est fournisseur d'arguments. Alors, d'abord, je préfère, plutôt qu'argumenter, je préfère fournisseur d'expertise. Hein, donc ça serait la première des choses. La deuxième des choses, il est évident qu'on essaye de faire... considérer que nos expertises sont les plus valables que celles de notre voisin. Et ce qui est évident aussi, c'est que dans la majorité des cas, le résultat est aussi bien au niveau des institutions qu'au niveau des organisations, le résultat d'un compromis entre des expertises qui vont se rencontrer, parfois s'appuyer, parfois se contredire, et au milieu, le rôle du... le jeu normal du politique qui doit faire le choix entre privilégier tel ou tel intérêt plutôt qu'un autre. Sur ce point-là, nous n'avons aucune autre capacité d'intervention.
Alors voilà, donc un expert, un fournisseur d'expertise qui préfère dire fournisseur d'expertise plutôt que fournisseur d'arguments. On voit que l'euphémisme marche à fond quand il s'agit du lobbying. On n'a pas cette franchise des États-Unis où le lobbyiste est un lobbyiste, un point c'est tout. Ici, en Europe, et ben c'est peut-être le charme de notre vieille Europe. Il faut mettre des gants, des masques pour dire que l'on influence et que l'on cherche à manipuler l'opinion et les décideurs. Alors, il faut bien se dire qu'il y a beaucoup de monde. J'ai parlé de 15 000 lobbyistes, mais c'est beaucoup de matière grise. Patrice Pellegrino, vous l'avez entendu, est un homme cultivé qui est des dépositaires de diplômes, d'expérience, d'expertise. Et il y a une matière grise considérable qui est mobilisée à Bruxelles et dans l'ensemble de cette construction de l'Europe. C'est dire si... ceux qui se mettent à l'écart et qui critiquent ces experts et ces fournisseurs d'expertise et d'arguments ont de mérite et sont rares. C'est le cas de Geoffrey Guens, qui est à l'université, qui enseigne à l'université de Liège et qui est l'auteur d'un livre intitulé « Tout pouvoir confondu, État, capital et médias à l'ère de la mondialisation ». Que pense-t-il, lui, dans sa version? Après tout, c'est un intellectuel, c'est aussi un fournisseur d'arguments et d'expertise. Que pense-t-il de la façon dont sont prises à Bruxelles les décisions qui nous concernent?
Alors, comment se prennent les décisions au niveau européen?
Alors, ce qui est intéressant de constater, c'est que, au-delà de la prétendue pression des lobbies, enfin, qui existe aussi, mais je pense que c'est vraiment qu'une petite réalité des rapports entre pouvoir politique et pouvoir économique, il y a aussi l'importance des commissions qui sont mises en place par les commissaires européens, de ce qu'on appelle en Grande-Bretagne les task force, les groupes de réflexion, etc. Là, on ne peut pas dire qu'il y ait lobbying, qu'il y ait pression, puisque c'est la commission qui décide de nommer comme conseiller de sa table ronde sur l'avenir des services, par exemple, ben, le vice-président de la table ronde des industriels européens, le vice-président de l'IVETI. On pourrait donner d'autres exemples. Donc on voit que déjà là, au niveau de la prise de décision, lorsque l'on regarde les organes qui sont chargés d'émettre des rapports ou de donner leur avis au niveau européen, à la limite, il n'y a pas besoin de pression, puisque le travail qui est fourni par l'UNICE ou par la table ronde et répété une seconde fois de façon beaucoup plus efficace par ces dirigeants qui sont invités par les commissaires européens à officiellement être membres de leur groupe de réflexion. Donc on voit que déjà là, l'extériorité, elle est déjà un peu plus bancale. Ils sont déjà dans la place.
Alors ça veut dire, vous donnez raison aux responsables de lobby que nous avons rencontrés et qui nous disent, ah mais non, nous on ne fait que donner des expertises, donner des conseils quand on nous demande, mais finalement, ce sont les politiques qui tranchent et qui choisissent.
On pourrait dire oui, sauf que ça laisse supposer l'idée qu'il y aurait donc une égalité dans l'influence susceptible de tous les lobbies sur le politique. Or, précisément, ce qui est intéressant de montrer, c'est que le politique entretient déjà, bien avant le lobbying, des liens très étroits avec le monde des affaires. Et donc, que ces lobbies-là sont plus puissants que les autres, mais parce qu'ils agissent sur un personnel qui est déjà, assez naturellement, par toute une série de mécanismes, disposé à suivre plutôt les conseils de ces lobbies que les conseils de contre-lobbies. Mais encore une fois, est-ce qu'on peut penser sérieusement que la Commission européenne subit l'influence de la table ronde des industriels européens quand c'est Étienne d'Avignon, vicomte de son État et ancien vice-président de la Commission, qui lui-même a demandé à l'époque à Per Gyllenhammar de créer la table ronde des industriels européens?
C'est quoi cette table ronde des industriels européens? À quel rôle?
Alors la table ronde des industriels européens est très différente de l'UNICE, ce n'est pas un organisme chargé de défendre.
L'UNICE, c'est le MEDEF européen.
Voilà, l'UNICE, c'est le MEDEF européen. Donc en principe, il y a une défense de toutes les grandes et peut-être les plus petites entreprises. Donc on s'inscrit dans une dynamique de défense sectorielle, alors que la table ronde, c'est quelques grands noms de l'industrie européenne ou de la haute finance. Et là, on est plutôt dans une relation directe de la Commission avec les compagnies les plus puissantes. Donc je crois que la table ronde est probablement moins institutionnelle, moins officielle, mais peut-être beaucoup plus puissante que l'UNICE d'une certaine façon.
Fournisseur d'arguments et fournisseur d'expertise. En voici un autre, le Lisbon Council, Paul Hofheinz, qui est un journaliste américain vivant en Europe et qui est convaincu depuis des années de l'importance, évidemment, de cette Europe telle qu'elle est en train de se construire. Mais lui, on l'a vu hier avec ce think tank qui était, alors franchement, vive le capitalisme et qui organise le bal capitaliste, les bouteilles de champagne capitalistes, etc. On va voir qu'avec Paul Hofheinz, qui est donc lui à la tête du Lisbon Council, un think tank, la juste ligne est au juste milieu. Paul Hofheinz.
Paul Hofheinz, je suis président du Lisbon Council, une association sans but lucratif basée à Bruxelles qui travaille sur l'agenda de Lisbonne. Une décision prise par le Conseil européen il y a 5 ans de créer l'économie la plus compétitive et dynamique basée sur la connaissance avec plus de cohésion sociale avant 2010. Apparemment, ça marche pas très bien, mais nous, on a décidé de créer un think tank, une espèce aussi de ONG qui va travailler dans le secteur privé pour réfléchir, pour parler, pour échanger des idées, pour essayer à faire bouger l'agenda.
Voilà, parce que c'est pas des chercheurs désintéressés dans une université. Voilà. Il y a une ligne que vous définissez vous-même comme le radicalisme centriste.
Oui,
c'est comme ça que vous définissez.
Vous
les radicaux, les extrémistes du centre.
Oui, vous êtes bien informé. radicalisme du centre. Parce qu'à mon avis, la société est complètement bloquée à ce moment-ci. Et c'est un très grand problème si les gouvernements ne peuvent pas trouver des solutions à nos grands problèmes. Ça va devenir de pire en pire. Et un jour, les choses vont commencer à changer. Et notre position, c'est que le centre doit saisir les possibilités maintenant et donner les possibilités à changer, parce que sinon, le contraire, c'est que ces votes vont aller aux extrémistes. Et on va pas parler des dernières élections en France, mais là, on a eu un exemple très profond. C'est une espèce de blocage qui est très, très dangereux. Parce que si le centre ne fait pas bouger la société, les extrémistes vont le faire. Mm-hmm. On a vu l'extrême droite dans les dernières élections, mm-hmm. mais l'extrême gauche est là aussi.
Quels sont vos bailleurs de fonds et quels bailleurs de fonds vous refuseriez?
Les noms, vous voulez dire, mais pour l'instant, on n'en parle pas et je dirai pourquoi. Parce que nous, on a pris des positions publiques très fortes et ces positions ne sont pas toujours les mêmes que nos... bailleurs, comme vous avez
bailleurs
dit.
De fond.
C'est loin, pas toujours la même. Mais juste pour différencier, on ne raconte pas les noms de qui, mais je dirais quoi exactement. Il y a 9 sociétés qui nous ont aidés. Ce sont des sociétés de stand-in. Les noms sont connus. Vous les lisez tous les jours dans les journaux. Peut-être un de ces jours, on en dira plus. Mais pour l'instant, on a décidé d'avoir un mur chinoise sur cette question-là. Muraille de Chine sur cette question-là.
C'est-à-dire que c'est des grandes boîtes qu'on connaît, voilà. Qui contribuent, qui financent vos recherches, vos prises de position, voilà. Mais qui ne veulent pas encore apparaître ouvertement.
Non, c'est pas exactement, plus ou moins ça. Ce que j'essaie à dire, c'est que c'est nous qui... Et eux, ils sont d'accord pour qu'on les dise. Mais nous, on ne veut pas que tout le monde dise que ce sont ces sociétés-là qui défendent la directive du service, parce que ce ne sont pas ces sociétés-là, c'est nous qui le faisons. On est complètement indépendants.
Quel est leur intérêt à eux en vous finançant? On ne donne pas d'argent pour rien.
Non, bien sûr, il faudra leur demander à eux-mêmes. Je ne sais pas. Mais eux, ils sont intéressés à la création d'une société qui peut faire avancer... l'agenda de Lisbonne, la modernisation de notre société. Sinon, ils n'auraient pas donné l'argent.
Donc, c'est un travail idéologique?
Ça dépend de ce que vous voulez dire, idéologique. C'est pas tout à fait idéologique, mais il y a de l'idéologie ici. C'est plutôt question des résultats. Vous parlez de l'idéologie. À mon avis, ça vaut mieux à oublier tout ça, parce que tout le monde est dans une situation maintenant, c'est droite, gauche, gauche, droite, c'est pas tout clair ce que ça veut dire dans le monde où on vit. Ce qui est clair, c'est que la société n'avance pas, et nous, on veut l'avancer. Et je suis pas du tout sûr si c'est une idée de gauche, une idée de droite, c'est une idée d'avancement. Je prends un exemple très simple et très clair à tout le monde, le chômage. Ce qui est scandaleux, il faut créer de l'emploi, il faut faire quelque chose. Je trouve moi-même, personnellement, j'aime bien le système danois de flexicurité, où ils ont la réglementation pour le licenciement avec les moyens de protection en Europe. Mais le résultat a été le contraire. Ils ont aussi le niveau d'emploi le plus élevé. C'est plus élevé qu'aux États-Unis. C'est, comme on dit, un job creating machine. Mm-hmm. Et ça vaut la peine d'étudier comment ils l'ont fait. Ça vaut la peine. Et en l'étudiant, il faut oublier toutes ces questions d'idéologie. C'est ça que j'aime pas en France. Mm-hmm. C'est que ces questions se regardent toujours du côté soit le droite, soit le gauche. La question doit être qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche? Comment est-ce qu'on peut créer l'emploi?
Donc, pour vous, une piste, c'est la flexécurité.
Flexécurité, absolument, oui.
Alors évidemment, les chiffres de l'emploi en Grande-Bretagne comme au Danemark, comme tous ceux qui sont très couramment cités, sont des chiffres hautement discutables. On sait comment ces économies, ces pays ont mis en place, comme chez nous d'ailleurs, mais chez eux souvent de façon plus radicale, toute une série de dispositifs qui permettent de réduire le fameux chiffre de l'emploi avec des systèmes multiples et variés.
créer tout un tas de voies de garage et de précarisation qui permettent de faire baisser ce chiffre. Mais tout ça est discutable et discuté, sauf avec notre ami qui, lui, voit les choses d'une manière très radicale, puisque la solution, au centre, hein, la radicalité du centre, c'est la flex-sécurité. Alors, il nous a pas dit, Paul Feinz nous a pas dit qui étaient ces bailleurs de fonds, mais il se pourrait bien qu'on ait deviné, mais on n'est pas sûr du tout, qu'il y en ait un qui soit déjà passé sur France Inter le 10 décembre 2004, un matin sur France Inter. Il a été question de flex-sécurité, justement.
Serge Dassault.
Regardez le problème du Danemark. Le Danemark fait la flex-sécurité. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que la liberté totale d'embauche et licenciement, il n'y a même pas de salaire minimum, il n'y a même pas d'encadrement, c'est la liberté totale, moralité, 6% de chômage. Bon. Vous savez, si on empêche les entreprises de licencier, elles n'embauchent pas. Bon. Il faut laisser la liberté. La marque fait la flex sécurité.
Voilà. Voilà à quoi sert une machine à idées, comment une machine à idées est reprise et comment ça se diffuse, comment qu'est-ce que c'est que le fournisseur d'arguments et le fournisseur d'expertise, à quoi ça sert et comment ça arrive jusque dans vos matinales oreilles. Alors, toujours avec le Lisbon Council et toujours avec Paul Offines.
Je crois que tout le débat autour de la directive sur les services, ce qui est le vrai nom de cette directive, c'est plutôt une question des relations de la France avec le monde autour d'elle. Je suis convaincu que une bonne directive de services, qui veut dire une bonne ouverture des frontières aux fournisseurs de services en Europe, ça va être bon pour la France, comme l'ouverture du marché des produits a été bon pour les Français aussi. Et pourquoi? Parce que la France est très forte. C'est une économie de talents avec beaucoup de gens qui font leur boulot très bien. Ils auront la possibilité d'aller partout en Europe où ils ne sont pas maintenant. C'est bon pour les Français. Je ne comprends pas du tout. Je crois que cette directive a été impliquée dans une discussion beaucoup plus grande. Ce qui est les difficultés de la France à moderniser, les problèmes internes. Et à mon avis, une directive de service va aider à la modernisation de la France. Et j'appelle aux gens à y réfléchir. Et le problème, c'est que nos institutions et même notre manière de réfléchir n'a pas changé. On continue à penser comme si on était dans le 19e siècle. Mmh. Et qu'est-ce que ça veut dire? Là, on a les syndicats qui sont bien organisés sur un côté. On a le patronat qui est bien organisé aussi. Et ce sont deux institutions du 19e siècle. Ils se débattent depuis 100 ans. Qu'est-ce qui se passe? Les syndicats demandent de plus en plus en plus. Ils disent, ben voilà, on travaille 35 heures. Si on ne peut pas travailler 34, c'est pas social. Moi, je dirais que c'est pas le cas. Le problème, c'est que le système qu'on a aujourd'hui n'est pas acceptable dans le monde qu'on a aujourd'hui. Il faut que les gens changent leur mentalité, qu'on garde nos valeurs, mais on change la mentalité qui existe autour de ces questions. Et je souligne que les gens qui ont un emploi, ils ne peuvent pas continuer à demander de plus en plus en plus. C'est ça que j'essaie de dire. Je ne sais pas si c'est une idée socialiste, une idée libérale. Je dirais juste que c'est une idée très importante et j'appelle aux gens à y réfléchir.
C'est-à-dire, en clair, vous pensez que les salariés qui ont du travail, quoi, qui ont des emplois fixes, sont trop exigeants, mettent trop de pression à travers leurs syndicats, trop corporatistes, quoi, en somme.
Ben, j'ai passé par Paris il n'y a pas longtemps et ça, j'ai vu devant mes yeux. Je n'ai pas pu prendre le métro. Parce que là, ils se plaignaient qu'ils sont pas assez bien payés, qu'ils travaillent trop, etc., etc. Et si les gens qui ont un emploi vont continuer cette tendance, ils vont demander tout le temps plus et plus et plus et plus. Quand les gens qui sont complètement en dehors de le système montent, ben, ça m'étonne que la crise sociale n'est pas pire qu'elle est aujourd'hui. Ça va devenir de pire en pire.
Vous avez remarqué dans l'entretien
les mots que vient de prononcer Paul Offines, la directive Bolkestein, il n'en a pas été question du tout. Hein, il a appelé ça directive sur les services. Et si vous n'avez pas l'oreille affûtée, eh bien, voilà, c'est ainsi qu'on fonctionne un bon lobbyiste, un bon agent d'influence, un fournisseur d'arguments et d'expertise. C'est en jouant évidemment sur les mots. Les mots sont importants et les mots sont importants pour quelqu'un comme Geoffrey Guen. Je rappelle qu'il enseigne à l'Université de Liège et qu'il est l'auteur d'un bouquin intitulé « Tout pouvoir confondu » et qu'il se penche depuis des années sur ces connivences entre les lobbies, les pouvoirs des multinationales et des grands groupes financiers et des médias. Alors, quel est, Geoffrey Guens, le rôle et le poids réel de ces lobbies vis-à-vis de l'Europe ?
Je crois que si les lobbying aident à renforcer les liens entre le monde politique et le monde des affaires, et que ces liens sont déjà très établis au préalable, je pense que le travail des lobbies, c'est un travail peut-être plus d'influence sur ceux qui sont chargés du monopole de la parole légitime dans l'espace public. Je vais m'expliquer autrement, je veux dire par là qu'à mon avis, le rôle des lobbies, c'est peut-être plus de faire passer un discours dans les médias et de convaincre l'opinion publique que oui, il est nécessaire de mener telle ou telle réforme. Alors que sur le personnel politique, est-ce qu'on peut penser sérieusement qu'ils ont besoin de les convaincre de cela ? Mais non, ils le sont évidemment.
Alors comment ils opèrent sur les médias ?
Alors sur les médias, je pense que là, bon, il faudrait passer par une sociologie du monde journalistique. Il faudrait montrer, comme l'a bien fait Alain Cardo dans ses travaux, que bon, déjà, il y a une précarisation d'une partie du corps journalistique qui est de plus en plus, et là on peut parler de victimes, plus ou moins consentantes, des attachés de presse ministériels ou des directeurs de cabinet de grandes entreprises, etc. Et on sait que dans la presse, on peut le regretter, mais c'est ainsi, de plus en plus, la logique du couper-coller, c'est-à-dire on prend le document envoyé par Public Relations, une grande entreprise, qui souvent est un ancien journaliste, donc qui connaît les ficelles et les contraintes du métier, et puis on le colle et bon, on a un article. Donc il y a des mécanismes de cette façon qui ne relèvent absolument pas du complot, mais qu'on doit étudier en termes de sociologie des pratiques journalistiques au quotidien qui expliquent ces phénomènes. Et puis, à plus haut niveau, il est très clair qu'il y a là aussi des liens très étroits entre l'élite médiatique, le monde politique et le monde des affaires, que ce soit entre autres à travers l'entremise de cercles privés comme le Siècle en France ou le Cercle de Lorraine en Belgique, où là, ben, je veux dire, il y a une ligne qui est en accord et qui peut servir globalement les intérêts de la classe dominante. Et puis, il y a le reste des journalistes qui suit et qui est là plus ou moins victime des stratégies des public relations, stratégies particulièrement efficaces.
Les journalistes étant les pom-pom girls du capitalisme, hein, pour reprendre une image fameuse. Bon, ça fait un peu complot votre explication là.
Mais non, justement, je crois que c'est la théorie du lobbying qui est plus proche de cette idée qu'il y a concertation, qu'il y a organisation, qu'on écoute les conseils, qu'on se réunit et puis qu'on prend des décisions. Moi, au contraire, ce que j'essaye de montrer, c'est que par toute une série de mécanismes, en réalité, on n'a pas d'un côté le monde politique et de l'autre le monde des affaires. On a des personnalités qui circulent d'une sphère à l'autre et donc il n'y a pas de complot. Ils sont faits pour s'entendre naturellement. Ils sont passés par les mêmes grandes écoles. Ils sont passés par les cabinets ministériels. Puis ils passent dans le monde politique. Ils fréquentent les mêmes cercles privés. Ils financent les mêmes think tanks. Et donc, c'est une reproduction assez classique des élites qui donne cohésion véritablement à la classe dominante. D'où l'importance aussi de l'étude du capitalisme, toujours à partir de la notion de famille, les familles qui sont encore beaucoup plus présentes qu'on ne le croit. Michel et Monique Pinson-Charlot expliquent là, qu'on a affaire, contrairement au dit qu'on est néolibéral, à un collectivisme de la classe dominante. Je crois vraiment qu'elle fonctionne sur la base d'un collectivisme, contrairement à l'idéologie néolibérale, pour la bonne et simple raison que si l'on prend tous les principes fondateurs du néolibéralisme, on constate tout simplement que le fonctionnement du système et l'exact inverse, l'exact retournement du discours néolibéral tel qu'il prétend décrire le monde. En gros, le néolibéralisme, quels sont les éléments essentiels de son discours ? C'est le primat de l'individu sur le collectif, sur les structures sociales, sur les classes sociales qui auraient disparu. Ce serait donc un monde fait d'individus entreprises, d'individus libres. C'est un monde dans lequel l'État ou le politique serait soumis aux exigences d'un marché qui serait un marché libre de toute contrainte. Et enfin, le néolibéralisme, c'est aussi cette idée qu'on a affaire à des entreprises qui sont véritablement dans une relation de pure concurrence. Or, quand on étudie un peu concrètement la structure de toute une série de secteurs de l'économie, on constate qu'il y a moins de concurrence qu'il n'y a de cartels et de collaboration, qu'il n'y a moins d'individus libres et concurrentiels qu'il n'y a de familles, de réseaux et de classes dominantes qui s'inscrivent dans une, véritablement une stratégie collectiviste, et en fait qu'il y a beaucoup moins d'États ou de politiques victimes que d'États comme premier relais des capitaux et des intérêts privés. Et donc, petite parenthèse, ça montre bien que le néolibéralisme, on ne doit pas lutter contre. Le néolibéralisme, c'est un discours, c'est une idéologie. Ce n'est pas la réalité du fonctionnement de notre système.
Donc, alors, à quoi servent les lobbies? Moi, j'ai toujours pas ma réponse.
Et je le dis, je crois que vraiment, les lobbies ont une influence probablement de pression sur les médias, sur les journalistes, et surtout de légitimation d'un discours dominant s'appuyant sur une prétendue expertise chargée de dire « il est indispensable de mener telle ou telle réforme ». Mais ils viennent en appui de mécanismes sociologiques beaucoup plus diffus, mais ô combien plus efficaces.
Alors, je reprends la question que vous vous êtes posée à vous-même et qui n'est pas nouvelle. Que faire?
Alors, que faire? Bon, je ne vais pas être très original non plus. En tout cas, moi, ce qui me préoccupe beaucoup, je le répète une fois, c'est que ceux qui sont censés combattre un pouvoir, peu importe qu'ils le qualifient de néolibéral et que déjà cette qualification est assez trompeuse, mais que ceux qui sont censés combattre ce nouvel ordre mondial, et je pense à de larges fractions de l'altermondialisme et aux mouvements les plus médiatiques comme attaque, en tout cas dans certaines de ses composantes, en viennent eux-mêmes à penser le pouvoir dans les termes qui leur sont imposés par le pouvoir. D'un côté, on dit qu'il faut moins d'État, de l'autre, il faut plus d'État. Mais l'État et le marché ne sont pas séparés. C'est déjà un et une seule entité, d'une certaine façon. Premier problème, le politique est victime. Non, le politique, il est bourreau des entreprises. Idem. Mais non, ils ne sont pas séparés l'un l'autre. Une fois de plus, moins de régulation, plus de régulation. Mais la régulation, elle est là. Qu'est-ce que ça veut dire, la régulation? On a des institutions politiques qui mènent une politique, mais voilà, le système, il est régulé. Donc, je crois que la première chose à faire, il n'y a pas de pratique sans théorie. Et donc, je crois vraiment que la première chose, c'est de prendre le temps de sortir des sentiers un peu battus de l'altermondialisme mondain et de réfléchir un peu plus sérieusement sur le fonctionnement réel du capitalisme et non pas sur le néolibéralisme qui n'est que, disons, sa vitrine idéologique.
So maybe we move to them, to the tree.
Diffusion de Lobby Planète, un reportage de Guy Vonctil et Daniel Mermet. Merci à Geoffrey Guens, auteur de Tout pouvoir confondu, État, capital et médias à l'ère de la mondialisation. Un livre sur les principaux lobbies qui agissent aujourd'hui dans le monde, livre publié aux éditions EPO. Et demain à 17h, vous retrouverez dans La Basse J'y suis un entretien avec Eric Azan, auteur de LQR, La propagande du quotidien, publié aux éditions Raison d'agir. Toutes ces informations sont disponibles sur le site de Radio France à la rubrique émission « Là-bas si j'y suis ». Technique aujourd'hui Alain Stamm et Eric Morin. Cette émission a été réalisée par Yann Chouquet et Koyan Nguyen. Le chef du répondeur, c'est Christophe Humbert. Et vous pouvez laisser vos messages sur le répondeur de « Là-bas si j'y suis » au 01 56 40 37 37.